Voilà. Alors, autre question, je me disais, est-ce qu'on peut modéliser ce que c'est qu'une bonne nuit ou un bon sommeil? Parce que je pense, on entend souvent, voilà, quand les personnes âgées dire, bon, avec l'âge, on a besoin de moins dormir. Par contre, des enfants ont besoin de beaucoup dormir. Et puis, chaque individu a ses propres rythmes. Est-ce y a quelque chose qui est quand même modélisable ou pas dans les recommandations que vous pouvez faire à des patients?
Alors c'est compliqué effectivement parce que le sommeil est très très variable, donc déjà d'un individu à l'autre, on n'a pas tous le même sommeil, il y a des facteurs génétiques qui déterminent la qualité de sommeil et le besoin de sommeil. Ensuite, vous l'avez très bien dit, il y a une variation en fonction de l'âge. Donc on n'a pas du tout le même sommeil chez un très jeune enfant ou un adolescent, un jeune adulte ou une personne âgée. Donc on ne peut pas attendre la même chose. Et ensuite, il y a, vous l'avez dit, les rythmes biologiques. Donc ça aussi, c'est génétiquement déterminé. Il y a des personnes qui sont plutôt du matin, par exemple, ou plutôt du soir, donc qui fonctionnent mieux le matin ou le soir. Et ça, c'est également quelque chose qu'on ne choisit pas. Donc la première consigne qu'on donne en tant que médecin et spécialiste du sommeil, c'est d'essayer de s'écouter et de connaître ses besoins. Et ça, la meilleure façon de le faire, c'est quand on est par exemple en vacances ou qu'on n'a pas de contraintes. Donc il faut un peu plus de temps qu'un simple week-end, hein. 2 jours de week-end, ça ne suffit pas, mais plusieurs jours de vacances avec un rythme libre. Quel serait le temps de sommeil idéal? Qu'est-ce qu'on aimerait faire pour fonctionner normalement? Donc à quelle heure on aimerait se coucher, à quelle heure on aimerait se lever pour avoir un bon sommeil. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est vraiment de s'écouter et d'essayer de comprendre ce dont on a besoin. Et après, effectivement, il y a des recommandations particulières en fonction de l'âge et de temps passé au lit. Et c'est très vrai chez les enfants et les adolescents. C'est un peu moins vrai chez les adultes parce que, comme vous disiez, il y a une variation inter-individuelle très importante et il y a des gens qui ont beaucoup de chance. Ce sont des courts dormeurs. Ils ont besoin de 5, 6 heures par nuit et ça leur suffit largement. Et puis, il y a des gens qui sont des longs dormeurs. Donc, eux, c'est 8 ou 9 heures de sommeil par nuit. Et s'ils n'ont pas ces 8 ou 9 heures, eh ben, ils n'arrivent pas à fonctionner normalement. Et après, bien sûr, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène de sommeil. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, se coucher pas trop tard, ne pas consommer de café, ne pas trop manger le soir, ne pas utiliser les écrans trop tardivement. Voilà.
Oui. Alors, il y a eu des expériences, je pense, en vous écoutant, ces chiffres, je crois, le spéléologue qui avait vécu plusieurs semaines dans une grotte pour ne pas avoir les alternances jour-nuit, hein, qui quand
Oui.
même induisent le sommeil. Là, on est sur du rythme purement biologique, si je puis dire. Alors, est-ce qu'il y
Oui.
a des variations comme ça, sociologiques et culturelles, on pourrait dire, du sommeil, ou est-ce qu'il y a des invariants biologiques que vous repérez?
Tout à fait. Alors, il y a les deux. Les deux sont importants. Donc, effectivement, cette expérience célèbre de Michel Siffre dans les années 60, il s'était enfermé plusieurs semaines dans une grotte sans aucun repère temporel. Et donc, on avait pu voir son rythme biologique indépendamment des facteurs externes. Et donc, depuis, ça a été beaucoup étudié. Et ça a d'ailleurs été un prix Nobel de physiologie il y a quelques années. Donc, la découverte des gènes de l'horloge biologique qui régule de façon génétique donc le temps de notre horloge biologique. Donc on a tous une horloge génétiquement déterminée qui n'est pas exactement la même. On est en moyenne entre 23 et 25 heures. On n'est pas exactement sur 24 heures, mais on a une horloge intrinsèque qui est invariante. Et ensuite, on a donc tous ces facteurs externes, et notamment sociologiques, et notamment culturels, et notamment environnementaux, qui viennent remettre à l'heure, tous les jours, l'horloge. Donc ça, c'est vraiment fascinant dans le sommeil, parce qu'il y a toujours cette composante à la fois innée génétique et cette influence de l'environnement, et c'est l'interaction des deux qui fait qu'on arrive à fonctionner et à bien fonctionner. Et donc les facteurs sociaux les plus importants, les plus connus, ce sont les rythmes donc de repas, donc par exemple le fait de manger à heure fixe, l'heure de lever, le fait de se lever à heure fixe tous les jours, Et les activités sociales, comme par exemple le fait de travailler tous les matins ou tous les après-midi, et enfin l'activité physique. Donc tous ces rythmes, tous ces facteurs extérieurs ont une influence sur notre horloge biologique, et plus on arrive à avoir une régularité dans nos activités, plus on va renforcer positivement l'horloge circadienne et la faire bien fonctionner.
Alors, il y a aussi, je pensais, vous parlez... travailler aussi sur les questions de troubles de l'éveil. On évoque beaucoup, je pense, dans le champ de la pédagogie, hein, d'experts qui nous parlent de l'attention des élèves. Est-ce que les neurosciences arrivent comme ça à dégager des réalités scientifiques, ou est-ce que c'est un peu fantaisiste, ou est-ce justement, des fois j'ai l'impression que le côté social et culturel est un peu trop évacué dans ces recherches?
Alors, on parle ici de deux choses différentes, les troubles de l'éveil et les troubles de l'attention. En neurosciences, on connaît très bien les deux, mais c'est très difficile de distinguer ces deux phénomènes parce que, effectivement, quand on a des troubles de l'éveil et donc quand on a de la somnolence, on peut avoir des troubles attentionnels. C'est-à-dire, on a des difficultés à se concentrer, des difficultés à focusser l'attention sur quelque chose et notamment sur un cours. Par contre, on peut aussi avoir des troubles attentionnels indépendamment des troubles de l'éveil. Et donc, c'est ce qu'on voit, par exemple, chez les enfants qui ont des troubles de l'hyperactivité, ce qu'on appelle la maladie, le TDAH. Et là, on est sur une maladie qui est différente, où il y a probablement pas enfin, il peut y avoir des troubles du sommeil, mais il peut aussi ne pas y en avoir. Et donc, c'est deux choses qui sont vraiment distinctes, troubles attentionnels et troubles de l'éveil, mais qui interagissent, notamment dans les maladies de la somnolence, comme la maladie, la narcolepsie, qu'on connaît très bien à Montpellier, où là, les enfants sont vraiment, ou les adolescents, très somnolents et donc des gros troubles attentionnels. Donc, voilà.
Oui, même avec des endormissements brutaux, ce qu'on appelle cataplexie, si je ne me trompe.
Alors, les cataplexies, c'est autre chose. Je me permets juste de corriger parce que c'est... Oui, cataplexie, c'est un... Donc, les endormissements brutaux sont des caractéristiques de la narcolepsie, effectivement. Et les cataplexies sont des phénomènes différents qui sont en fait des pertes de tonus musculaire en pleine conscience déclenchées par les émotions. Donc, les personnes qui souffrent de ça ne s'endorment pas. De l'extérieur, ça donne l'impression, effectivement, qu'elles s'endorment parce qu'il y a une perte de tonus. Et donc, la personne va s'affaisser ou tomber, avoir les yeux fermés. Mais en fait, elle est pleinement consciente, elle ne dort pas à ce moment-là. C'est un phénomène caractéristique de la narcolepsie.
D'accord. Voilà, bah merci de cet éclaircissement. J'avais fait une petite confusion. Bien. En tout cas, merci beaucoup, Dr Barateau, pour tous ces détails. Et puis, pour nos auditeurs qui voudraient en savoir encore plus sur l'équilibre fragile de leur nuit, et bien, je les invite à venir vous rencontrer donc à la MSH sur le site Saint-Charles. Et ce sera le vendredi 13 à 18h. Voilà.
Exactement.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et puis, j'oserais pas vous souhaiter une bonne nuit quand même.
Vous pouvez. Bonne nuit et bonne journée, parce que les nuits et les journées sont également importantes.
Merci.
Merci à vous. Au revoir.